presque excuser la question. Les colonies ont-elles été une bonne affaire pour la France? C'est vrai que ce n'est pas une question très académique. En langage académique, on ne formulerait pas le sujet de cette manière. Mais pourquoi j'ai choisi cette question? J'aurais pu mettre d'ailleurs des guillemets à « bonne affaire », parce que c'est une question qui hante toujours la conscience des Français et qui reste, qui traverse toujours cette interrogation. Quel rôle ont joué les colonies dans le développement économique de la France? Il y a un livre qui vient d'être republié il y a quelques semaines, quelques mois, sous la direction de Marc Ferraud, qui s'intitule « Le livre noir du colonialisme » et qui revient encore sur cette question. En France, après s'être dissipée pendant une dizaine d'années, la mauvaise conscience française vis-à-vis de la colonisation est en train de ressurgir. On revoit aujourd'hui beaucoup d'articles dans la grande presse revenir sur cette période qui coïncide bien sûr avec l'année dernière les 50 ans des débuts de la guerre d'Algérie, qui va coïncider avec la loi Defish en 1956. Donc on est en plein en commémoration honteuse dans notre pays de cette période. Alors, j'ai donc choisi cette question alors que ce n'est pas une réelle question d'histoire, en fait. La colonisation a eu lieu. La question de savoir si ça a été une bonne affaire ou pas n'est pas une vraie question. La question, c'est quel rôle, quelle place a eu le fait colonial dans l'histoire de la France. Mais pourquoi cette question a-t-elle été posée? Parce qu'il fallait montrer deux choses pour les adversaires de la colonisation. Je précise que je ne suis pas quelqu'un qui plaide pour la colonisation, mais j'essaie de comprendre les questions qui se posaient. Eh bien, pour les adversaires de la décolonisation, il fallait montrer deux choses. Il fallait montrer que si les pays qu'on appelait autrefois, l'expression date de 1953, sous la plume d'Alfred Sauvy, l'expression « tiers-monde », il fallait démontrer que si le tiers-monde avait eu des problèmes de développement, si une large partie du monde n'avait pu se développer, c'est parce que les colonies auraient été une bonne affaire pour les métropoles et que la colonisation aurait entravé le développement du tiers-monde. C'était ce qu'il fallait démontrer. Et puis, ce qu'il fallait également démontrer pour les adversaires de la colonisation, c'est que si les pays occidentaux s'étaient développés à partir du XVIIIe siècle et s'étaient encore plus développés à partir du XIXe et du XXe siècle, c'est parce qu'ils auraient imposé aux pays qu'on n'appelait pas encore le tiers-monde, mais qu'on appelait les colonies, c'est parce qu'ils auraient imposé un échange inégal, parce qu'ils auraient pillé leurs ressources, parce qu'ils les auraient empêchés de se développer. Donc il fallait démontrer en même temps, c'est bien sûr l'héritage que l'on trouve dans le Capital de Marx, il fallait démontrer par exemple que la révolution industrielle britannique était liée à la destruction de l'économie indienne ou était liée au pillage des ressources dans les pays dominés. Voilà pourquoi la question a toujours été posée de cette manière que j'estime moi triviale, mais elle a toujours été posée comme cela. Alors qu'est-ce qu'on développait encore comme idée? On développait que les métropoles auraient imposé à leurs colonies des cultures d'exportation uniquement destinées à satisfaire les besoins de la métropole, qu'elles auraient profité et même organisé la dégradation des termes de l'échange. Je ne sais pas si c'est facile à traduire les termes de l'échange, mais la question de la dégradation des termes de l'échange est un lieu commun qui, aujourd'hui encore, se retrouve dans tous les manuels de l'enseignement secondaire en France. L'idée qu'il y a eu dégradation des termes de l'échange entre les pays sous-développés et les pays développés. J'y reviendrai. Il fallait également démontrer que par l'exportation des capitaux, les métropoles auraient entravé tout développement autocentré, tout développement propre des territoires coloniaux. Bref, que la colonisation aurait laissé un héritage sur les pays dominés qui pèserait toujours sur les destinées de ces anciens territoires. Avec, pour la France, une focalisation du sujet, une attention extrême portée sur l'Afrique essentiellement. Puisque même si la France a eu un empire qui s'est étendu à l'Asie, avec en particulier l'Indochine, dans l'imaginaire des Français, la colonisation se résume souvent à l'Afrique, et même plus particulièrement l'Afrique noire. Alors, on aurait pu croire que le développement de certains pays du tiers-monde massif depuis une trentaine d'années aurait entravé un peu cette argumentation, aurait gêné cette argumentation, mais non. Aujourd'hui, cette argumentation se reproduit par le jeu de la mondialisation. Finalement, on dit aujourd'hui que la mondialisation, qui ne voudrait dire que la nouvelle forme de développement et de domination des pays occidentaux sur le reste du monde, eh bien la mondialisation aurait pris le relais de la colonisation comme forme d'échange inégal. Voilà quel était l'état, quand j'ai commencé ma thèse, il y a 30 ans, voilà quel était l'état de la question. J'ai malheureusement le sentiment que ça n'a guère changé aujourd'hui. C'est-à-dire que cette interrogation, cette façon de poser les questions, cette façon un peu primitive de poser les questions, j'ai un peu le sentiment qu'elle est restée identique d'une certaine manière, mais avec des mots nouveaux. C'est vrai que le marxisme, particulièrement en France, a perdu beaucoup d'influence, mais il ressurgit sous d'autres formes, sous d'autres habits, d'une certaine manière. Et on reprend toujours cette idée, à savoir que le monde inégal est l'héritage de la colonisation. Alors, en même temps, pour moi, il y a eu une très grande interrogation. Si la colonisation, c'est cette interrogation qui d'ailleurs a été à l'origine de ma thèse. Si la colonisation avait été une aussi bonne affaire pour la France, c'est-à-dire si dans les années 50, l'Empire représentait une telle importance pour la France. C'est ce qu'on pensait en France dans les années 50. Surtout quand on a commencé à découvrir le pétrole en Algérie. Donc, si les colonies avaient été une aussi forte affaire, la question redoutable qu'il fallait se poser, c'est comment expliquer que la France ait pu si facilement surmonter le choc de la décolonisation. Puisque dans les années qui ont suivi la décolonisation, jamais la croissance de l'économie française n'a été aussi forte. Donc ça, c'est resté, pendant toute la période de ma recherche, ma grande interrogation. Comment expliquer l'envol de la croissance au moment, précisément au moment, où la France perdait les marchés protégés qu'elle avait depuis un siècle? Comment expliquer cela? Il fallait supposer une formidable capacité d'adaptation du capitalisme français, capacité qu'on ne lui prête pas généralement. Donc c'est resté mon interrogation. Et pour répondre à cette interrogation, il va être nécessaire, et c'est ce que je vais faire, de prendre en compte la périodisation. Une des choses, si vous voulez, qui me semble plus importante en histoire, dans la réflexion que l'on peut avoir en histoire, c'est de déglobaliser les choses, de déglobaliser les périodes. Le capitalisme français, le, n'existe pas. Il y en a plusieurs formes. Il change selon les périodes. Il y a différentes branches. Les intérêts sont divers. Donc, employer à chaque fois des concepts globalisants pose, à mon avis, des problèmes. Et en particulier dans la période, pour la période coloniale, c'est ce que je me suis essayé de faire, de démontrer qu'il n'y avait pas un capitalisme, mais au moins deux, et que c'est la lutte entre les deux rendait compte en grande partie de la forme que va prendre la colonisation. Alors, premier temps, ce que j'ai appelé le temps de la béquille, hein, 1880-1930. Dans une première période, disons pendant plus d'un demi-siècle, les colonies, on peut dire qu'elles ont été, j'emploie l'expression, encore un mot trivial qui n'est pas très académique, mais qui explique bien ce que je veux dire, je dis que les colonies ont été la béquille du capitalisme français, non pas du capitalisme français, mais la béquille d'un certain capitalisme français, qui pendant cette période-là a été confronté à deux problèmes. Tout d'abord, la formidable étroitesse du marché intérieur. Donc, d'un certain capitalisme confronté à deux problèmes, l'étroitesse du marché intérieur, la France, jusque dans les années 50 même, reste un pays majoritairement rural, où un tiers de la population active est encore une population agricole, et où les débouchés intérieurs sont insuffisants. Ce qui explique, par exemple, que la France n'a pas connu le développement de l'électricité qu'a connu l'Angleterre, qu'a connu l'Allemagne, parce que les marchés français, le marché intérieur, ce marché de petites villes, de petites bourgades, n'est pas un marché favorable à l'industrialisation. Donc il y a une certaine partie des branches que je vais développer du capitalisme français qui était confrontée à ce manque de débouchés à l'intérieur du pays. Et d'autre part, c'est une période où il y a eu de très grandes turbulences. Quand on regarde la période 1880-1930, mais 1945, quand vous regardez sur une courbe cette période-là, quand vous regardez même une courbe des salaires pendant cette période-là, vous êtes sur un haut plateau. C'est-à-dire que vous avez de 1880 à 1900 ce qu'on a appelé à l'époque la Grande Dépression et qui se traduit, c'est un peu ce que nous vivons actuellement peut-être, ce que vous vivez peut-être aussi actuellement, c'est-à-dire non pas une période de crise, mais une période de plafonnement de la croissance, avec des taux très faibles qui rendent les acteurs de la période déprimés, au sens propre du terme. Donc, on a connu pendant 20 ans la dépression, on a ensuite connu la Première Guerre mondiale, et Dieu sait si pour la France et l'Europe, ça a été quelque chose dramatique. On a connu ensuite les turbulences financières et monétaires des années 1920, on a connu la crise des années 1930, et on a connu ensuite la Deuxième Guerre mondiale. Quand vous regardez les courbes de croissance de la France, par exemple, ou de beaucoup d'autres données, vous vous rendez compte qu'en 1950, pour un grand nombre de variables de l'économie, vous ne dépassez pas les niveaux de 1890. Donc, le XXe siècle, encore une fois, je disais tout à l'heure qu'il fallait déglobaliser, pour moi, le XXe siècle n'existe pas. Il y a un premier XXe siècle qui s'arrête en 1950 et il y a un second XXe siècle qui commence à partir de 1950 et qui n'a pas du tout la même allure que le premier. Les colonies sont la béquille du premier XXe siècle, de la période, on va dire, globalement, on va dire 1880-1940-45. Je voudrais rappeler 6 points pour cette première période. Tout d'abord, je voudrais rappeler, c'est un calcul que j'ai pu faire, que les conquêtes coloniales n'ont pas été coûteuses. Si on devait mesurer l'investissement qu'a représenté le coût des conquêtes coloniales, d'un empire qui, il faut le rappeler quand même, faisait plus de 10 millions de kilomètres carrés, qui a été conquis en un demi-siècle, ça a coûté... Je vais parler en francs, puisqu'on parle de francs pour l'époque, 1 milliard de francs de 1913, si vous voulez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, 1 milliard de francs? En soi, ça ne veut rien dire, 1 milliard de francs. 1 milliard de francs, ça ne représente que 3% du PIB de 1913, pour vous donner une idée. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Ça représente 2 années d'impôts indirects sur les boissons, pour vous donner une autre idée. Donc, dire que les conquêtes coloniales, la conquête de cet immense empire qui faisait la fierté des Français dans l'entre-deux-guerres, et dont les taches roses s'étalaient sur tous les murs des classes des écoles françaises, un immense empire colonial avec les dominations de la France, 12 millions de kilomètres carrés, ça a coûté 3% du PIB, 2 années de taxes indirectes sur les boissons. Ça a beaucoup plus coûté à l'entretien qu'à l'achat, j'allais dire. Bon. Ensuite, il faut surtout rappeler que jusqu'en 1930, l'exportation a été une très grande contrainte pour les entreprises françaises. Et ça, j'insiste beaucoup sur cela, parce que ce n'est pas ce qu'on dit d'habitude. D'habitude, on décrit l'économie française jusqu'à l'ouverture du marché commun comme une économie très repliée sur elle-même, très peu exportatrice, très protégée par les barrières douanières. Eh bien, cette image est largement erronée. Des années 1880 aux années 1920, le pourcentage de la production industrielle exportée par la France est plus élevé qu'au cours de la période des 30 glorieuses, c'est-à-dire de la période des années 1945-1975. Le pourcentage de la production industrielle exportée par la France, je le répète, c'est important, est plus élevé au cours de la période 1890-1920 que dans la période 1950-1970. Par exemple, dans les années 1920, les industries de la soie exportent 67% de leur production. Les industries de la laine, 50%. La métallurgie, 28%. Et toutes les études qui ont été faites sur des entreprises, comme Saint-Gobain, comme Pont-à-Mousson, comme Renault et comme d'autres, montrent que la production de ces entreprises exportées dans les années 20, par exemple, atteint plus de 50% de leur chiffre d'affaires. Alors, troisième point, pour ces branches, et conformément au vœu de ce qu'annonçait, quand il a conquis l'Indochine, Jules Ferry, qui déclarait, la phrase est célèbre, que la politique coloniale est la fille de la politique industrielle, eh bien, pendant cette période, les colonies ont bien été un débouché privilégié pour ces branches. Dès avant la Première Guerre mondiale, l'Empire colonial était, par exemple, le deuxième ou le troisième partenaire commercial de la France. Alors, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte. Pourquoi ? Parce que l'Empire colonial ne représentait à cette époque-là, avant la Première Guerre mondiale, que 10 à 12% des exportations françaises. Et on se dit, mais 10 à 12%, c'est pas grand-chose. Oui, mais c'est pas grand-chose, mais ça en fait le deuxième partenaire commercial de la France. Le deuxième, ou le troisième. Là encore, il faut déglobaliser. Par exemple, à la veille de la Première Guerre mondiale, l'Empire absorbait 80% des exportations de tissus de coton, 50% des exportations de rail, 40% des exportations de sucre, d'eau-de-vie, de savon, des branches qui faisaient la richesse et l'activité du port de Marseille, par exemple, qui était la grande ville, la grande ville coloniale de cette époque-là. Donc, sur le plan du commerce, l'Empire colonial a joué un rôle plus important qu'on le pense généralement pendant cette première période. De la même manière, l'Empire colonial était devenu une zone d'investissement privilégié. Loin, bien sûr, derrière la Russie, qui était la première zone d'exportation de capitaux pour la France, avec le quart des capitaux exportés par la France était en Russie. Mais là encore, il était au second rang de la destination des capitaux exportés, à égalité avec l'Amérique latine, par exemple. Donc toujours deuxième rang. En Russie, 12 milliards de francs exportés, dans l'Empire, 4 milliards. Surtout, les taux de profit réalisés dans l'Empire par les sociétés coloniales étaient particulièrement élevés. En 1913, par exemple, la Banque de l'Indochine réalisait un taux de profit de plus de 50% par rapport à son capital. l'action des charbonnages du Tonkin, l'Indochine était un des fleurons de l'empire colonial français en 1913. L'action des charbonnages du Tonkin valait 1600 francs en bourse, alors que son nominal était à 250 francs. C'est-à-dire quelqu'un qui aurait acheté une action des charbonnages de Tonkin au moment où ils se sont fondés, en 1890, il aurait payé 250 francs, ça valait 1600 francs 20 ans plus tard. Donc l'action coloniale payait pour ceux qui investissaient dans les affaires coloniales. Cinquième point, pendant la crise des années 1930, l'Empire est alors apparu comme une véritable, je ne sais pas si c'est facile à traduire, une véritable bouée de sauvetage pour l'économie française qui était frappée à ce moment-là de plein fouet par la contraction du commerce mondial et par la crise du commerce mondial. Et on a de nombreuses citations des constructeurs automobiles qui déclarent, par exemple, de leur développement aux colonies dépend en grande partie la prospérité de notre industrie automobile. Et d'ailleurs, c'est dans les années 1930 que l'empire colonial est à son apogée. Et cet apogée se concrétise et se matérialise dans le bois de Vincennes à Paris, avec la tenue en 1931 de l'exposition coloniale qui va attirer plus de 6 millions de visiteurs et qui a été l'apothéose de l'empire colonial français, de l'imaginaire colonial. Et vous savez peut-être qu'on avait reconstitué dans les bois de Vincennes le temple d'Angkor, qui était le clou de la démonstration que la France avait la capacité à supplanter les vieilles nations asiatiques dans le rôle du développement et de la reconstruction de la civilisation. C'était le but qu'avait assigné le maréchal Lyautey, organisateur de l'exposition, aux architectes et aux constructeurs. Voilà l'élément. Il faut quand même, et je terminerai par là, même si l'Empire, terminerai cette première partie, que même si l'Empire a joué un rôle plus important qu'on ne le pensait pendant cette première période, le développement de l'industrialisation, dans le cas de la France, comme dans le cas de la Grande-Bretagne, ne doit pratiquement rien quand même aux matières premières et aux sources d'énergie venues des colonies. C'est-à-dire que ça a joué un rôle important, mais le développement économique de la France, la première révolution industrielle en France à partir des années 1820-1830, comme la révolution industrielle britannique à partir des années 1750-1770, on le sait aujourd'hui, on le répète aujourd'hui, c'est ce que montre par exemple Paul Béroc, c'est ce que montre également David Landes dans son dernier livre sur richesse et pauvreté des nations, c'est que le développement des pays développés ne s'est pas fait sur l'exploitation des matières premières, des sources d'énergie et des débouchés des pays colonisés. Et d'ailleurs, c'est une excellente nouvelle pour les pays du tiers-monde. Parce que si, comme le prétendaient les adversaires de la colonisation, le développement des pays industrialisés ne pouvait se faire qu'en exploitant d'autres pays, eh bien, ça serait une nouvelle dramatique pour les pays du tiers-monde, parce que comme ils n'ont personne à exploiter, je ne sais pas comment ils pourraient un jour se développer. Donc, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que le développement des pays industrialisés s'est fait sur le propre développement de ces pays, sur leur propre énergie, sur leur propre capacité à inventer, à se développer. Et il faut rappeler que la grande source d'énergie des pays industrialisés jusqu'aux années 50, c'est le charbon, et que le charbon, eh bien, l'Europe était autosuffisante. Il faut rappeler que la grande matière première de la sidérurgie et de la métallurgie, c'est le fer, et le fer, l'Europe est autosuffisante. Bon, la seule matière première qui a joué un rôle important dans le développement, c'est effectivement le coton. Mais le coton était essentiellement importé des États-Unis. Donc aujourd'hui, tous les ouvrages montrent que le développement de l'Europe, eh bien, l'Europe le doit à ses propres forces et non pas à l'exploitation d'autres parties du monde. Et je dis que ça, c'est la bonne nouvelle que l'on pouvait donner aux pays du monde. Voilà ce qui se passe, voilà très rapidement, mais je répondrai aux questions, ce qui s'est passé pendant la première partie. L'Empire est bien la béquille du capitalisme français. Par contre, à partir de la deuxième période, à partir de la crise des années 30, il devient, autre mot trivial qui n'est pas très académique que je prononce, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire, il va devenir un boulet. Un boulet qui, pendant les 30 dernières années de son existence, des années 1930 à la décolonisation, qui est finie avec celle de l'Algérie en 1962, eh bien ma thèse, c'est de dire que l'empire colonial a freiné la modernisation du capitalisme français. Et il l'a freiné de quelle manière ? Il l'a freiné parce qu'il a garanti aux branches déclinantes du capitalisme français un débouché qui allait se transformer en boulet, retardant la restructuration de l'économie française au bénéfice des branches les plus dynamiques. Et j'ai fait, je pense que tout le monde a des courbes mystérieuses sous les yeux. Je vais essayer de commenter cette courbe qui, pour moi, j'ai passé les premières années de ma thèse à aligner des statistiques pendant des jours et des jours. Et quand on aligne des statistiques et que l'on fait des courbes, parfois, on a des éclairs, des révélations. Quelqu'un a dit un jour « Eureka ». Eh bien, c'est en faisant ces courbes que l'on découvre des choses. Et je voudrais vous commenter la courbe des exportations de tissus de coton, qui est le tableau 1. Alors, sur le graphique du haut, graphique 1, vous avez les exportations de tissus de coton dans les exportations totales de la France. Vous voyez que cette courbe se divise en deux grandes périodes. De 1880 à 1920, on peut dire que l'industrie cotonnière, globalement, est une industrie qui progresse dans la structure globale des exportations françaises. Au début de la période, les exportations de tissus de coton représentent un peu plus de 2%, voire l'échelle de gauche, un peu plus de 2% du total des exportations françaises. Elles en représentent à leur apogée en 1920, 7%. Donc pendant cette première période, l'industrie cotonnière progresse au sein des exportations totales de la France. Ensuite, à partir de 1920, elle décline pour retomber à 5% en 1940. Et puis, après l'épisode chaotique de la Deuxième Guerre mondiale, elle s'effondre, passant de 5% à un peu plus de 1% en 1958. Voilà, sur une courbe, une simple courbe, l'histoire d'une branche essentielle du capitalisme français, l'industrie cotonnière. Vous avez l'histoire de cette branche qui est totalement résumée sur cette courbe. Branche ascendante jusqu'en 1920, branche déclinante de 1920 à 1940, et branche qui s'effondre pendant les Trente Glorieuses. Sur la courbe du bas, la courbe numéro 2, vous avez le pourcentage des ventes de coton dans l'Empire par rapport aux exportations totales de la branche. Et qu'est-ce que vous constatez ? Là, il y a deux tendances. Pendant la première période, 1880-1920, les exportations globales de coton représentent à peu près 30-35, un tiers, on va dire, environ un tiers du total des exportations de la branche. Donc l'Empire est important. Il représente un tiers des exportations totales de la branche. Mais à partir du lendemain de la Première Guerre mondiale, la part passe à plus de 70%, 80% et près de 100% à la fin de la période. Comment lire cette courbe ? C'est très simple. C'est-à-dire qu'au moment où l'industrie cotonnière progresse dans l'histoire du capitalisme français. Le débouché colonial est un débouché important, mais qui reste stable. À partir du moment où la branche décline, puis s'effondre, le débouché colonial devient le seul débouché de cette branche déclinante. Et comme il devient le seul débouché, il permet la survie de cette branche. La survie de cette branche au détriment des autres branches les plus dynamiques. D'où mon titre « béquille » dans un premier temps, « boulet » dans un deuxième temps. Parce que la démonstration, si vous voulez, que je peux vous faire pour l'industrie cotonnière, et qui, moi, me semble très claire sur cette graphique, dans ma thèse, je l'ai fait pour toutes les branches de l'économie française. L'huilerie, la savonnerie, la laine, l'industrie de la bière, enfin, j'ai décomposé l'économie française en une trentaine de branches, et j'ai fait ce même calcul pour l'ensemble des branches. Et qu'est-ce que je constate ? Ben, je constate que l'empire colonial, à partir de 1930, devient le seul et unique débouché de toutes les branches qui déclinent. Alors que, par contre, pour les branches qui sont les plus dynamiques, le débouché colonial perd de son importance. Et ce sont les marchés européens, puis les marchés des pays industrialisés, qui relaient les marchés coloniaux. D'où mon titre de boulet. Et ce n'est pas ce titre, si vous voulez, une invention d'historien. Je le reconstitue, bien sûr, par les graphiques et les courbes. Les contemporains ne faisaient pas ces graphiques ou ces courbes. Mais les contemporains avaient une claire conscience de ce boulet. Et je voudrais vous lire quatre lignes d'une citation d'un personnage qui a joué un rôle très important, qui est François Bloch-Lenné. François Bloch-Lenné a été, au lendemain de la guerre, directeur du Trésor, donc le personnage à l'époque le plus important au niveau des finances de la France. Donc il gérait l'ensemble des finances par le biais du Trésor. Le directeur du Trésor était un des hauts fonctionnaires les plus essentiels. Et qu'est-ce qu'il disait dans son livre qu'il publie en 1954 et qui s'appelle « La zone franc » Il dit ceci. « Le système du pacte colonial s'est presque renversé au bénéfice des pays d'outre-mer. Tout se passe comme si la métropole fournissait les francs métropolitains qui permettent à ses correspondants ça veut dire à ses colonies, d'avoir une balance, je souligne, des paiements profondément déséquilibrée. Ainsi s'opère aux frais de la métropole le développement économique de tous les pays d'outre-mer, sans exception. Voilà ce que ose, je dis bien, voilà ce que ose écrire un haut fonctionnaire en 1954, à la veille du début de la guerre d'Algérie. Ainsi s'opère aux frais de la métropole le développement économique de tous les pays d'outre-mer, sans exception. Alors, je voudrais maintenant détailler en quatre points cette hypothèse du boulet entravant la modernisation de l'économie française. Il faut tout d'abord rappeler qu'en règle générale, les pays non coloniaux ont connu un développement économique plus rapide que les puissances coloniales. L'exemple est assez caricatural pour la Belgique. La Belgique avait un taux de croissance très élevé au XIXe siècle. À partir du moment où elle conquiert le Congo et où elle devient une grande puissance coloniale, elle entre dans les pays à faible croissance. C'est-à-dire que quand on fait la ventilation entre les pays à forte croissance et les pays à faible croissance, on constate que les pays à faible croissance sont les pays coloniaux, les pays à forte croissance. L'Allemagne, par exemple, qui a toujours eu envie d'avoir des colonies, par chance, elle n'en a pas eu, on va dire, ou elle en a eu très peu, elle a connu une croissance économique beaucoup plus rapide que la France ou que la Grande-Bretagne. Donc, dans la deuxième période, la possession d'un empire colonial a peut-être joué comme un matelas, comme une bouée de sauvetage, mais non pas comme un moyen de stimuler la croissance. Ça, c'est une première réflexion. La deuxième réflexion, beaucoup plus importante, contrairement, alors j'ai passé quand même un certain nombre de... J'ai fait un certain nombre de calculs sur les termes de l'échange, parce que ça, c'est une question qui me tourmentait et qui me tourmente toujours. Contrairement à un mythe tenace, les termes de l'échange, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que les termes de l'échange? C'est le rapport entre les prix de ce que vous exportez et les prix de ce que vous importez. C'est-à-dire que si les termes de l'échange se dégradent, ça veut dire que vous êtes obligé de vendre de plus en plus pour acheter la même quantité de marchandises. Je fais simple, mais c'est à peu près ça. Donc la dégradation des termes de l'échange veut dire ça. Vous êtes en gros pillé par ceux à qui vous vendez vos marchandises. Eh bien, contrairement à un mythe tenace, les termes de l'échange ne se sont pas dégradés pour les colonies pendant la période coloniale. Les termes de l'échange se sont dégradés, au contraire, pour la France pendant la période coloniale. Ainsi, je les ai calculés pour l'Algérie dans la dernière période, l'indice des termes de l'échange marchandises est passé de l'indice 100 pour l'Algérie en 1949 à l'indice 124 en 1960. C'est-à-dire que pendant toute la dernière période de la colonisation, les termes de l'échange de l'Algérie vis-à-vis de la France se sont améliorés de 24%. Et tous les calculs que l'on peut faire pour beaucoup de pays colonisés montrent que c'est une légende d'écrire, ça fait trois fois que je le dis, vous voyez que c'est une idée pour moi tenace, c'est une légende de dire que les termes de l'échange se sont dégradés pour les pays dominés. Et d'ailleurs, c'est parfaitement logique, ce constat est parfaitement logique, car la productivité est beaucoup plus importante pour les pays industrialisés que pour les pays dominés. La productivité est beaucoup plus forte pour les produits industriels que pour les produits agricoles. Par exemple, Béroc, Paul Béroc, que je recite, et qui lui aussi a beaucoup insisté sur ce mythe de la dégradation des termes de l'échange, eh bien, Béroc calculait qu'en 1876-1880, une tonne de coton égyptien valait moins de 7 tonnes de blé américain. Les termes de l'échange étaient une tonne de coton égyptien, 7 tonnes de blé américain. En 1926-29, ce chiffre était passé à 11 tonnes, c'est-à-dire qu'en vendant une tonne de coton, l'Égypte pouvait s'acheter désormais 11 tonnes de blé américain et non plus 7 tonnes. Et enfin, le calcul qu'a fait Béroc s'arrête en 1987-91. En 1987-91, en vendant une tonne de coton, l'Égypte pouvait acheter 40 tonnes de blé américain. Quelqu'un qui ne connaîtrait pas les deux pays se dirait qu'il y a eu dégradation épouvantable des termes de l'échange américain vis-à-vis de l'Égypte. C'est pas ce qu'on lit d'habitude dans la littérature. Et ce calcul fait par Béroc, je l'ai moi aussi vérifié pour les colonies. Je l'ai calculé pour l'arachide sénégalaise, je l'ai calculé pour la banane antillaise, je l'ai calculé pour le caoutchouc indochinois et ainsi de suite. Les termes de l'échange s'améliorent pour les colonies au détriment de la France. Donc là encore, un des éléments les plus forts que brandissaient les adversaires de la colonisation pour démontrer que la colonisation avait été une entrave au développement des colonies, ne tient pas. C'est un argument qui ne tient pas. Il y en a peut-être d'autres, mais celui-là, en tous les cas, ne tient pas. Troisième point, j'ai surtout, et ça c'est encore plus important, calculé l'aide indirecte qu'a apportée la France à ses colonies en compensant leurs déficits commerciaux. Ça, c'est un des choses que j'ai calculées après ma thèse et que j'ai rajoutées dans ce dernier volume. C'est-à-dire que quand vous avez un déficit commercial, il faut bien que vous le payiez, à un moment ou à un autre. Vous ne pouvez pas avoir des déficits commerciaux durables, sauf les États-Unis depuis une dizaine d'années, mais tout le monde s'inquiète précisément de savoir comment les États-Unis vont finir par payer leur déficit commercial, mais quand vous avez un déficit commercial permanent, soit vous devez dévaluer à un moment, soit le payer. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai calculé pour l'ensemble des pays colonisés par la France leur déficit commercial au long de la période, pendant toute la période, de 1880 à 1960. Et j'ai retrouvé le pressentiment qu'avait Bloch-Lenné, c'est-à-dire que les déficits commerciaux des colonies françaises sont considérables, considérables pendant la période. Et ils deviennent à partir de 1930 de plus en plus considérables. Qui a payé ces déficits commerciaux? La France, bien évidemment. Le contribuable français, bien évidemment. Et j'ai calculé ce que ça représentait. De 1945 à 1962, ça a représenté 3 fois le plan Marshall, pour vous donner une idée. Ça a représenté, pour la dernière période de la colonisation, 3 fois le montant total des aides américaines à la France de 1945 à 1955. Ça représentait 9% des recettes budgétaires annuelles. 9% des recettes budgétaires annuelles. Et au total, ça a représenté l'équivalent... On dit toujours que la France s'est redressée grâce au plan Marshall, que l'aide américaine a été un stimulant qui est à l'origine de nos Trente Glorieuses. Eh bien, l'aide que la France a apportée, l'aide indirecte que la France a apportée à son empire colonial en compensant les déficits commerciaux de ses colonies, représente 3 fois le plan Marshall. Et si aujourd'hui, on estime que l'aide des pays riches aux pays pauvres devrait atteindre au moins 0,7% du PIB, c'est une norme internationale qui a été fixée, eh bien pendant toute la période coloniale, je peux vous dire que la France a largement dépassé les 0,7% de son PIB d'aide aux pays qui étaient sous sa domination. Largement dépassé ce chiffre. On ne remercie pas assez la France de ce qu'elle a fait dans ses colonies, surtout ceux qui ont été colonisés, bien sûr. Alors, dans les années, mon quatrième point, dans les années 1950, des milieux d'affaires de plus en plus nombreux ont commencé à être saisis par ces chiffres, qu'ils ne connaissaient pas, mais qu'ils pressentaient, je le répète, et à être saisis de ce que un autre haut fonctionnaire, qui était directeur des affaires économiques au ministère de la France Outre-mer, il a été ensuite président de la Banque Paribas, Pierre Moussin, il avait appelé ce sentiment le complexe hollandais. Il estimait que les milieux d'affaires français étaient saisis par ce qu'il appelait le complexe hollandais. Et qu'est-ce qu'il appelait le complexe hollandais? C'est l'idée que les Pays-Bas devaient leur étonnante prospérité, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, à la perte de l'Indonésie. Et c'est lié à un article paru dans la presse patronale, qui s'appelait L'Entreprise, où il y avait un article qui disait, finalement, est-ce que la perte de l'Indonésie n'a pas été une formidable affaire pour les Pays-Bas? Et l'article, je résume un peu cet article, il disait, voilà, on a plutôt l'impression que cet événement a constitué pour les Pays-Bas une catastrophe. La perte de leur empire, au même titre que les pertes de guerre ou que les inondations. Eh bien, l'article disait, il n'en est rien. Les Hollandais, aujourd'hui, pensent que leur industrialisation a profité beaucoup plus de la perte de l'Indonésie que de son maintien. Alors, je résume, il disait ceci. Sur le plan psychologique, la perte des Indes néerlandaises a joué un rôle d'aiguillon. Il disait aussi, si les Hollandais avaient gardé l'Indonésie, il aurait fallu reconstruire les pertes de guerre en Indonésie, il aurait fallu l'expression va être employée par la suite par Raymond Cartier, il aurait fallu, je mets la phrase entre guillemets, payer des allocations familiales aux polygames de Bornéo. Voilà ce que l'on lit dans l'article. Donc, finalement, ça aurait été une très mauvaise affaire. L'article est publié un mois avant le début de la guerre d'Algérie, dans un journal patronal français. Et cet article va développer l'idée, et ça va être appelé le complexe hollandais, que l'idée que de perdre ces colonies, finalement, c'est une chance pour les métropoles, et que les garder, c'est plutôt un boulet. D'ailleurs, j'ai calculé moi-même, pour l'Indochine, les actifs nets des entreprises coloniales. J'ai calculé la valeur de tout ce que représentaient les actifs des entreprises coloniales pendant toute la période. De 1945 à 1954, les actifs nets des entreprises installées en Indochine passent de l'indice 100 à l'indice 36. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les entreprises françaises ont décolonisé l'Indochine avant la date officielle, bien avant la date officielle. Si je prends les actifs nets des entreprises françaises installées en Algérie, on passe de l'indice 100 à l'indice 88 en 1954. Et en Algérie, alors qu'en Indochine, la guerre faisait rage et pouvait faire penser au milieu d'affaires français qu'elle serait de toute façon perdue, en Algérie, entre 1945 et 1954, personne n'imaginait que l'Algérie serait perdue. Sauf les entreprises françaises qui, elles, avaient commencé à désinvestir massivement de 1945 à 1954. Donc j'en viens à cette idée, finalement, que les milieux d'affaires que l'on accuse souvent d'avoir été les partisans de la colonisation, moi je pense plutôt que, dans l'affaire, ils ont été des décolonisateurs précoces. Ainsi, et c'est ma conclusion, amorcée au début des années 1930, l'idée selon laquelle le protectionnisme auquel la gestion des territoires coloniaux condamnait l'économie française ne bénéficiait qu'à une minorité des entreprises et allait à l'encontre des intérêts de la France, allait finir par s'imposer. Elle allait aboutir à la conclusion que les colonies étaient décidément une mauvaise affaire et que la modernisation de la France exigeait la décolonisation et le rapatriement sur l'Hexagone des ressources inutilement dispersées au-delà des mers. Et je terminerai par une citation absolument extraordinaire, parce que ça a été l'interrogation finale de ma thèse. Cette idée qu'il fallait décoloniser, elle était évidente pour ceux qui savaient compter, elle était évidente pour ceux qui devinaient l'avenir de l'économie mondiale, mais elle n'était pas du tout évidente pour l'opinion. Il fallait arriver à convaincre l'opinion que la décolonisation était une bonne affaire. Et celui qui probablement a réussi le mieux à faire passer cette idée, c'est évidemment le général de Gaulle. Et au moment où il revient au pouvoir en 1958, on pense qu'il revient au pouvoir pour maintenir l'Algérie française. Alors, il fait un voyage en Algérie et à son retour, il confie à Alain Perfitte. Il ne faut pas se payer de mots. C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Il montre que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle, mais à condition qu'il reste une minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même, avant tout, un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Qu'on ne se raconte pas d'histoire, poursuit le général de Gaulle. Les musulmans, vous êtes allés les voir, vous les avez regardés avec leurs turbans et leurs djellabas. Vous voyez bien que ce ne sont pas des Français. Ceux qui prônent l'intégration ont, les traducteurs ont travaillé tout à l'heure, ont une cervelle de colibri, même s'ils sont très savants. Essayez d'intégrer de l'huile et du vinaigre. agiter la bouteille. Au bout d'un moment, ils se sépareront de nouveau. Les Arabes sont des Arabes, les Français sont des Français. Vous croyez que le corps français peut absorber 10 millions de musulmans, qui demain seront 20 millions et après-demain 40? Alors j'ajoute que dans l'argumentation de De Gaulle, ce qui pesait d'une manière forte à l'époque, c'était ce qu'on pouvait appeler la bombe démographique. Ce qu'observaient tous les démographes de l'époque, c'est la croissance démographique extraordinaire des pays d'islam. Et que tous ceux qui souhaitaient maintenir l'Algérie française se seraient retrouvés bientôt avec un premier ministre musulman. D'ailleurs, vous allez voir la suite de la phrase. Et voilà ce que dit le général de Gaulle. Si nous faisions l'intégration, si tous les Arabes et Berbères d'Algérie étaient considérés comme Français, comment les empêcherait-on de venir s'installer en métropole, alors que le niveau de vie y est tellement plus élevé? Et je terminerai par cette phrase, qui n'est pas la mienne, évidemment, mais qui est la sienne. Il dit « Mon village ne s'appellerait plus Colombey les deux églises, mais Colombey les deux mosquées. » Donc voilà cette citation du général de Gaulle en 59. Eh bien, il fallait le charisme du général de Gaulle et sa capacité à mater l'opinion française pour imposer ce que les milieux d'affaires les plus modernisateurs avaient pressenti depuis une cinquantaine d'années, que la décolonisation était l'intérêt économique de la France. Voilà, si vous voulez, quel a été mon travail. Et 20 ans après, j'ai pu retravailler sur d'autres statistiques, refaire d'autres études. Eh bien, je n'ai pas trop changé d'idée sur la thèse que j'ai soutenue il y a 20 ans. Les colonies n'ont pas été une bonne affaire pour la France en longue durée. Je vous remercie.